un sauveur nous est donné. Je vous lis l'évangile de Luc, alors que l'ange Gabriel est allé annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte, alors qu'elle n'était pas mariée, qu'elle ne connaissait pas d'homme. À partir du verset 26, premier chapitre. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. De prime abord, ce texte nous fait penser à l'aspect délicat de la situation de Marie. C'est souvent sur cet aspect-là qu'est mis le focus, l'attention. Comment annoncer ça à Joseph ? Comment accepter de prendre le risque du rejet et au pire, la persécution sous forme de lapidation si tout à coup Marie était accusée d'adultère. Elle est fiancée, elle n'a encore pas consommé quoi que ce soit de son futur mariage, mais c'est comme si elle était mariée avec Joseph. Légalement, c'est comme si elle est mariée. Et souvent, on met l'attention à ce niveau-là. Mais si tout ça est vrai, il y a un autre aspect qui est peut-être encore plus important. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué ces jours. Et j'arrivais pas à détourner mon attention de cet élément-là. C'est que, sans détour, l'ange y fait allusion à une quantité de références de l'Ancien Testament, références aux Écritures. Sans détour, l'ange Gabriel y dit à Marie, « Celui que tu vas porter de manière miraculeuse, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui a été annoncé pendant des siècles et des siècles, c'est toi qui vas porter le Fils de Dieu. » Et Marie comprend. Difficile d'imaginer ce qu'elle a dû ressentir à l'intérieur d'elle-même. L'ange Gabriel, il cite par exemple Ésaïe 7, 14. Soit il cite, soit il fait allusion. Ésaïe 7, 14 nous dit « Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça a été écrit 700 ans avant la naissance de Marie. Mais elle connaît ces textes. « La Vierge deviendra enceinte. » Ésaïe 9, 5 à 6 nous parle « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est une parole qui sera reprise plus tard, quand l'ange va aller parler au berger. Voilà ce qu'il va dire. Il va citer Ésaïe 9, 5, 6. Il dit aussi « Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Et à Marie, il lui a bien dit que c'était le trône de David. que occuperait son fils. Dès maintenant et à toujours. Et Gabriel, l'ange Gabriel a dit à Marie, ce fils y régnera éternellement. Marie comprend, elle connaît les Écritures. Elle connaît les Écritures et ça on le verra dans son cantique. Son cantique, il est complètement fondé sur les Écritures. Alors lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », oui, elle sait qu'elle risque le rejet. Elle sait qu'elle risque la persécution. Mais elle sait surtout que cet enfant ne lui appartient pas. Et elle sait que depuis ce jour, elle ne maîtrise plus, elle ne maîtrisera plus le cours de sa vie. Et elle accepte. Marie a reçu Jésus et nous aussi, d'une certaine manière, nous avons reçu Jésus. Nous sommes porteurs de Jésus, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Recevoir Jésus, porter Jésus change notre vie. Change notre vie pour notre bien. C'est une bénédiction d'avoir Jésus. Mais ce n'est pas seulement pour notre bien. Notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient plus si elle nous a un jour appartenu. Ce n'est pas à nous de décider comment Jésus, comment Dieu va diriger notre vie. Recevoir Jésus, c'est aussi un abandon. C'est aussi dire, je suis le serviteur, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Il est important de comprendre que notre vie en Dieu s'inscrit dans une histoire plus grande que notre court passage sur la terre. Et justement, Marie, elle l'a compris. Elle a compris que ce qui lui arrive s'inscrit dans le cours de l'histoire que Dieu dirige et tient entre ses mains. Elle a compris qu'elle est face à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Alors nous allons lire son cantique, le cantique de Marie, un cantique qu'elle proclame quand elle est remplie du Saint-Esprit. C'est sûr, si elle n'avait pas été remplie du Saint-Esprit, peut-être qu'elle n'aurait pas pu dire un tel cantique. Mais ça prouve aussi qu'elle était versée dans les Écritures, qu'elle les connaissait, elle a dû les entendre depuis toute petite, Shabbat après Shabbat, elle connaissait les Écritures. C'est quand on connaît les Écritures que le Saint-Esprit les fait revenir à notre esprit, à notre mémoire, et qu'on peut proclamer la grandeur de Dieu. On est dans Luc 1, à partir du verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, ou l'humilité, la simplicité de sa servante. Car voici, désormais, toutes les nations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Pour dire son cantique, Marie, elle s'appuie sur celui de Anne. Anne du temps de Samuel, là aussi il y a des siècles en arrière. C'est la même construction ce cantique. Et si vous vous souvenez, Anne, elle a imploré le Seigneur pour avoir un enfant. Et miraculeusement, elle a enfanté Samuel. Et quand elle l'a sevré, elle l'a amené vers le sacrificateur, Élie, pour le consacrer au service du culte. Et elle fait un cantique, elle prononce, elle proclame un cantique. Et Marie, elle proclame son cantique à peu près de la même manière, à peu près avec la même construction, mais Ici, Marie, même si elle aussi, elle a conçu un fils miraculeusement, elle n'exprime pas sa reconnaissance pour un fils qu'elle aurait désiré, mais pour le secours, pour le salut d'Israël. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères. Elle exprime sa reconnaissance pour l'œuvre bien plus grande que sa vie à elle. Et ce qui arrive à Marie est inscrit dans le temps. Et elle l'a compris. Et ça se voit dans ce cantique. Parce qu'elle fait le lien avec le passé, mais elle est complètement tournée vers le futur. Elle fait le lien avec le passé lorsqu'elle construit son cantique sur la même formule que celui de Anne, mais elle cite beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Par exemple, au verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent », c'est le psaume 103:17. Verset 53, « Il a rassasié de bien les affamés », c'est le psaume 107, verset 9. Il s'est souvenu de sa miséricorde, psaume 98, verset 3. Et en plus de ça, elle se réfère à Abraham. Et Abraham, qui a vécu bien avant elle, a reçu une promesse. On parle de la bénédiction d'Abraham. Et dans Genèse 22, les versets 16 à 18, il est question de cette confirmation de la promesse d'Abraham. C'est juste après que Abraham a passé le test, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, son unique. Et que bien sûr, Abraham n'a pas dû aller jusqu'au bout. Dieu l'a arrêté à temps. L'Éternel dit à Abraham, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Marie comprend que les prophéties qui ont été données à la postérité d'Abraham sont en train de s'accomplir en elle. Ce Messie promis, cette bénédiction par la postérité d'Abraham, c'est elle qui le porte. Cette bénédiction d'Abraham qui a été prophétisée, confirmée de siècle en siècle et par tous les prophètes, est en train de s'accomplir en elle-même. Et elle comprend. Elle comprend que ce qui lui arrive s'inscrit dans une histoire plus grande que la sienne, que celle de sa vie. Et c'est comme si elle est en tension entre le passé et l'avenir. Elle comprend que c'est aussi son héritage. Elle est juive, Marie. Et elle est de la lignée de David. Et elle a conscience de tout cet héritage du passé qui est en train de s'accomplir en elle. Mais en même temps, elle regarde vers l'avenir. Elle dit que toutes les générations la diront bienheureuse, c'est-à-dire toutes les générations qui vont la suivre, qui vont venir après elle. Mais surtout, elle dit, « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » C'est pas encore accompli. « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. » C'est pas encore accompli. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide. C'est pas encore accompli. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Une partie est accomplie, mais pas tout. Marie est complètement tournée vers l'avenir. Elle est vraiment dans cette tension. Waouh, c'est moi qui suis utilisée pour faire ce lien entre le passé et l'avenir. Alors pour elle, c'était par rapport à Israël, c'était son peuple. Nous, on comprend que c'était pour l'humanité que c'était le cours de l'histoire totale de la création. Elle ne pouvait pas encore le comprendre. Elle n'avait pas l'entière révélation, comme nous aujourd'hui, nous sommes encore limités au niveau de la révélation. Mais nous avons compris où nous en sommes. Mais elle est vraiment entre les deux. Et elle comprend. Vous imaginez un peu ce qu'elle peut ressentir? La responsabilité, la grâce, l'abandon que ça signifie, le lâcher prise. Quelques mois ont passé, et Marie, il a peut-être pu se demander si elle n'avait pas rêvé ou est-ce qu'elle avait vraiment bien entendu, bien compris. Et en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, les méditait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Marie garde, médite toutes ces choses dans son cœur. Pour elle, le témoignage des bergers, c'est une confirmation. Ce que l'ange lui a dit, elle l'a vraiment entendu. Ce que l'ange lui a dit, il le lui a vraiment dit. Elle comprend que ce qui est en train de se passer, c'est surnaturel, c'est divin, c'est le ciel qui rejoint la terre. Au verset 10, il est dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Quand il est venu visiter Marie, il lui a dit, ne crains point Marie. Il utilise le même langage. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle, autrement dit, je vous annonce l'évangile. Et c'est quoi cet évangile? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, un moment précis, inscrit dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, du temps de César Auguste, alors que Quirinius est gouverneur de Syrie. Et ça, on le sait, c'est écrit, on a le témoignage que César Auguste et Quirinus, gouverneur de Syrie, régnaient il y a environ 2022 ans, à quelques années près. C'est inscrit dans l'histoire. Mes amis, la foi que vous professez, ce n'est pas quelque chose de virtuel, ce n'est pas un sentiment religieux, ce n'est pas, quelque chose de pas palpable. Vous croyez à un Dieu historique. Votre foi, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité et il y a des témoins, il y a des écrits qui témoignent. Et ce n'est pas seulement historique, c'est inscrit dans l'espace et dans le temps, dans l'espace géographique. Aujourd'hui, dans la ville de David, qui est Bethléem. Bethléem existe encore aujourd'hui. On sait où ça s'est passé. On connaît les circonstances. C'est fondamental de le comprendre. Quand on vous demande raison de votre foi, vous pouvez dire que vous ne croyez pas à quelque chose de virtuel, de nébuleux. Ce n'est pas un sentiment. Quelque part, ce n'est même pas un choix. Ça s'est passé, ce n'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. Ça s'est passé, c'est écrit, c'est inscrit. Et il n'y a qu'à voir le cours de l'humanité, il n'a plus jamais été le même. Et en Occident, et bien plus large que ça, même nos datations, il y a avant Jésus et il y a après Jésus. Et si vous regardez tout ce que les œuvres chrétiennes ont fait, bien sûr, il y a eu des dérapages. Mais si vous regardez, par exemple, les hôpitaux, qui a commencé les hôpitaux, les chrétiens? Les œuvres d'entraide, les chrétiens. Si vous commencez à étudier l'histoire, comment les choses se sont développées à partir de Jésus-Christ, vous verrez que le monde n'a plus été le même. La foi que nous professons, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Votre vie est inscrite dans le cours de l'histoire que Dieu tient entre ses mains. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. C'est-à-dire que Dieu est venu sur terre. Ça veut dire que Dieu a pris le corps d'un homme. Ça veut dire que Dieu a partagé notre condition, la chair et le sang. Dieu s'est abaissé, il s'est incarné. Le Créateur a foulé la terre qu'il a créée. Le Créateur est venu marcher dans sa création. Le Créateur s'est abaissé jusqu'à nous. Un sauveur, le sauveur de nos âmes, le sauveur de l'humanité, le sauveur de la création, qui est le Christ, celui qui est oint, celui qui est choisi par Dieu. Le Seigneur, celui qui a toute autorité. Vous comprenez ce qu'elle vit, Marie ? Elle comprend que sa vie est inscrite dans le cours de l'histoire. Elle comprend que sa vie ne lui appartient plus. Là, Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que tu veux que je décide de ma vie devant quelque chose de si grand ? Toi qui as encore des tels projets, toi qui vas abaisser les orgueilleux, élever les humbles, toi qui vas renvoyer à vide les riches et rassasier de bien les affamés. Et plus tard on saura, toi qui vas guérir les malades, toi qui vas ouvrir les yeux des aveugles, toi qui vas déboucher les oreilles des sourds, toi qui vas rendre valides les infirmes, toi qui donnes la vie éternelle, toi qui nous prépare, qui nous prépare à une réconciliation avec Dieu pour vivre éternellement avec toi. Comment veux-tu que dans ces circonstances, dans cette compréhension-là, je maîtrise ma vie? Qu'il en soit fait selon ta parole. Je ne vais pas rajouter grand-chose. C'est tellement important qu'on puisse méditer ces choses. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'ai reçu Jésus, je ne serai pas là ce matin. Mais jusqu'où est-ce que je comprends que ma vie s'inscrit dans le cours de l'histoire? Et si j'essayais de comprendre que Dieu a décidé de me placer aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds ou ailleurs, au Locle ou ailleurs, si aujourd'hui je comprenais que Dieu m'a placé dans cet endroit parce qu'il a un plan et parce que comme je suis porteur, porteuse de Dieu, de Christ, c'est qu'il veut m'utiliser. Comment ? Peut-être de façon très discrète, peut-être dans l'ombre, peut-être de façon fracassante, peut-être de façon visible ou pas. Il y a plein de manières. Mais essayez de comprendre. Bien sûr, vous ne portez pas le Messie de la même manière que Marie l'a porté. Une seule personne pouvait le faire, évidemment. Mais vous avez plus de révélations que Marie. Parce que vous avez déjà le Nouveau Testament, vous vivez sous la Nouvelle Alliance. Marie vivait encore sous l'Ancienne Alliance. Alors comprenez. Demandez au Seigneur que vous puissiez saisir ces révélations pour comprendre, mais ma vie dans le cours de ton histoire. Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment t'obéir? Comment te suivre? Comment être un outil de révélation au monde qui m'entoure? Que tu es Dieu, que tu existes, que le Messie est venu, que Dieu est venu, que le Sauveur est venu et qui nous a ouvert la voie à la réconciliation. Que le Seigneur nous vienne en aide pour comprendre. Amen.